SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Allez, dans le programme en français, cette semaine, on va parler de Formule 1, mais sous un autre angle, parce qu'on a quelqu'un de super important dans la Formule 1. Si vous êtes fan, si vous n'êtes pas fan, vous le connaissez peut-être pas, mais en fait, il fait l'intégralité des supers images de la Formule 1. C'est Jean-Michel Tibi. Bonjour Jean-Michel.
Salut Christophe, ça va ?
Ça va, impeccable. On s'est rencontrés maintes et maintes fois sur le circuit à Albert Park. Je pense que je suis un passionné de la Formule 1, les gens le savent, mais toi, tu es vraiment un vrai passionné de la Formule 1. 30 ans, au plus de 30 ans sur le circuit, j'allais dire. Ça commence à faire un bail. Il y a des belles petites histoires qui sont racontées dans un livre, je crois.
Ouais, absolument. C'est ma 33e année de Formule 1. J'ai commencé en 92. J'ai écrit un livre au mois de septembre qui est sorti et qui relate des histoires depuis une dernière 30 années.
Et on sait qu'en Formule 1, des histoires, il y en a tous les ans, mais tous les ans.
Il y en a même tous les jours.
Ouais, tous les jours.
Il y en a même tous les jours. Alors moi, j'ai écrit avec un co-auteur qui s'appelle Axel Brémond. Et en fait, on a raconté des histoires un peu secrètes, un peu qui ne sont pas vues, ou sinon des explications d'histoires qui étaient déjà vues par le public, mais d'un différent point de vue. Moi, je suis connu de tout le monde.
Dans la Formule 1, ouais.
Je suis connu de tout le monde dans la Formule 1, exactement.
Et c'est pas une blague, moi je peux le certifier ça.
Merci, et je suis pas du tout arrogant, mais en fait je sais ce que je fais, je sais ce que j'aime. Je fais des images, je travaille dans la pit lane, du garage 1 au garage 10. Et puis j'ai une caméra cinéma. Et je m'occupe de filmer avec une caméra cinéma.
Pour ceux qui ont suivi le Grand Prix ce week-end à Melbourne, notamment une de vos images que vous, je crois que vous en êtes assez fier, c'est le feu du frein arrière droit de Max Verstappen qui lui aura coûté le Grand Prix et puis pas mal de grosses déceptions en tout cas pour le Néerlandais. Les images derrière, c'était vous.
C'est ça. Alors en fait, d'abord, je suis très fier de faire des images exceptionnelles. En fait, je l'ai fait pour moi, mais je sais que si moi j'aime ça, j'espère que les téléspectateurs aimeront ça aussi. J'essaie toujours de faire des images différentes. J'essaie toujours de faire des images basées sur l'émotion. Donc en fait, là, quand il y a le feu, évidemment, et je vous dis un petit hint, on peut parler en anglais.
On peut dire, pas de problème. Okay.
Un petit tip, c'est qu'en fait, c'était un de mes rêves de filmer du feu en Formule 1. Et évidemment, quand il y a le feu, généralement, c'est un moment dramatique. J'espère jamais qu'il y ait évidemment un blessé grave ou quoi que ce soit, mais je rêvais de faire une image avec du feu. Donc j'ai des radios et j'entends beaucoup de choses dans mes radios. Il y a à peu près une douzaine de personnes qui parlent. Ça me nourrit d'informations. Et là en fait, j'entends à la radio que Max a un problème à l'arrière droit. Et je suis au garage Red Bull, donc je me dis ok, je vais l'attendre. Et puis je me place à l'arrière de la voiture parce que déjà je savais que c'était à l'arrière droit et en plus parce que je filme tout le temps. C'est ma manière de filmer, c'est ma marque de fabrique en contre-jour. Donc en fait, évidemment quand il y a du soleil et quand je peux, évidemment. Et là tous mes petits tips étaient réunis, c'est-à-dire que la voiture arrive, je suis à l'arrière de la voiture, le problème est à l'arrière droit. Le soleil vient en face de moi, la fumée et les flammes lèchent la roue arrière droite. Et en fait, c'est pour moi, c'était incroyable, quoi. J'étais tellement heureux, je crie souvent, les gens ils me prennent pour un fou, mais en fait je crie évidemment de joie. J'ai aussi le plan de Max qui sort de sa voiture aussi
dans la fumée, hein. Je l'ai vu, vous l'avez montré.
Voilà, c'est ça. Et pour moi,
hein,
on dirait carrément une scène qui est set up pour un film. Voilà. Et alors, en fait...
À une plus petite échelle, ça rappelle les images de Grosjean, hein, quand il est sorti de son nuage de fumée et après l'effroyable accident qu'il a eu. C'est vrai que ces images, elles parlent, elles restent. Ça, ça donne le côté... on sent le danger, quand même. Et c'est ça qui est important. Là, aujourd'hui, il y a eu un feu sur des freins, mais globalement, on joue avec le feu.
On joue avec le feu. Alors, il faut que je fasse une petite rectification. Parce que j'ai parlé avec des gens de chez Red Bull. Ce n'est pas le frein qui a pris feu, d'accord. C'est un problème mécanique. Et c'était à côté du frein. Effectivement, ça touchait le frein, ça touchait
le disque ou le...
Pas le disque, mais l'endroit où rentre l'air, l'écope de frein.
D'accord.
C'était juste à côté de l'écope de frein. D'ailleurs, l'écope de frein n'a pas brûlé, mais tout ce qui entourait le disque a brûlé. Sous ça, je l'ai évidemment en image. L'intérieur de la jante a brûlé aussi, puisqu'elle est en carbone. Mais incroyablement, l'écope de frein n'a pas brûlé. C'était un problème mécanique qui était juste à côté. Mais bon,
soyons précis.
Et puis en plus, j'ai été parler aux gens de chez Red Bull qui m'ont vraiment expliqué et je l'ai vu en plus. Voilà, donc c'est des images. En fait, je travaille pour le Signal International de la Formule 1 depuis 97. Donc, je ne sais plus combien de temps ça fait. Ça fait 27 ans. Et les années d'avant.
Ça a changé quand même, non? À la fois la technologie, mais l'approche qu'on a des grands prix, l'approche que le téléspectateur lambda attend d'un grand prix, c'est vrai que ça a dû changer pour vous. Vous avez dû le voir au jour le jour, non?
Alors, oui, absolument. Ça a changé parce que d'abord, le matériel a changé. Le matériel avec lequel on travaille. Le plus drastique ou le plus dramatique dans le sens noble du terme, c'est qu'en fait les gens ne peuvent plus attendre regarder pendant une heure et demie un Grand Prix parce qu'ils s'endorment ou parce que ceci cela. Donc en fait quand on filme, on essaye de commuter les caméras assez vite. On essaye de faire des fast pan pour montrer la vitesse des voitures, alors que
ce qui va à l'encontre du cinéma.
Voilà.
Un peu quand même.
Absolument, absolument. Le vrai problème en fait des fast pan pour nous, c'est qu'on voit pas vraiment les sponsors. Voilà, c'est qu'en fait, quand on fait un plan de face, en piste, hein, je parle, hein, quand on fait un plan de face, bah, il y a un sponsor au fond et on voit le sponsor pendant 3, 4, 5, 7, 8 secondes, très clair. Mais quand on fait un face pan de gauche à droite ou de droite à gauche, d'abord, c'est une prouesse technique pour le caméraman qui fait ça. C'est pas très difficile, mais il faut le faire avec l'habitude. Et puis, on voit pas les sponsors. Donc, quand il y a des face pan, bah, on commence avec un sponsor, on fait un face pan et on finit avec un autre sponsor en règle générale. Mais nous filmons quand même une course. Voilà, les caméras ont évidemment évolué, tout le matériel a évolué. Les gens maintenant ont accès à toutes les onboard caméras en direct, multi-feed. Ils peuvent regarder évidemment que la pit lane, ils peuvent suivre Fernando Alonso pendant tout le Grand Prix, ou Lewis Hamilton, ou Charles Leclerc, ou Magnussen, s'ils le souhaitent. Ils peuvent entendre évidemment tous les différents Grands Prix dans toutes les langues qu'ils veulent, qu'ils souhaitent. Partout, dans le monde entier.
C'est un vrai produit du 21e siècle, la Formule 1, à la télé, on peut le dire. Et on peut dire que dans les droits sportifs, c'est un des produits qui... Et je parle de produit, là, je mâche pas mes mots, c'est vrai, c'est un produit. C'est quelque chose qui est à la pointe des droits télé, de la technologie, de ce que les gens attendent. Et je parle même pas simplement de Netflix ou tout, mais les apps qui sont autour, le second screen, l'idée d'avoir un deuxième écran avec les temps, les timings, tout ce qui peut se passer à côté. La F1, c'est le seul sport à présenter ça, vraiment, un peu.
Bien, c'est-à-dire que il y a à peu près 40 et 50 ans, alors je ne vais pas faire le vieux con, mais il y a à peu près entre 40 et 50 ans.
Le problème, c'est que je me rappelle aussi. Non
voilà, entre 40 et 50 ans, tous les mécanos étaient habillés avec des genres de vêtements qui étaient un peu sales. Quand ils ouvraient la voiture, il y avait de l'huile qui coulait par terre.
Les F1, elles étaient par terre dans la terre.
Sur l'herbe. Ouais. Les mécanos mangeaient sur les voitures. Voilà. Et Bernie Ecclestone, quand...
Fumait autour des voitures.
Fumait autour des voitures. Moi, je ne fume pas, donc je ne vois pas ça comme ça. Mais voilà. Donc, en fait, il déjeunait. Il y a plein de photos et plein de vidéos. On voit carrément les pilotes qui mangeaient avec les mécanos sur la voiture. Et en fait, Bernie Ecclestone a modernisé tout ça, en essayant de faire une approche très très technologique et donc en disant maintenant voilà, on va construire des garages pour mettre les voitures. Et la première personne qui a dramatisé ça dans la propreté, c'est Ron Dennis avec l'équipe McLaren.
C'est l'image qu'ils avaient à l'époque.
Voilà, une équipe qui était habillée en rouge et blanc, pas rien au sol, pas une tache d'huile, pas rien du tout. Et en fait, tous les teams se sont inspirés en disant, voilà, c'est ce qu'on veut montrer la propreté. un peu comme à la NASA quand on fabrique des fusées.
L'idée de technologie avec les choses, enfin la plus haute technologie à la pointe de cette technologie.
Pour les voitures et la Formule 1 télévision, c'est dit, il faut qu'on fasse la même chose. Donc nous, ce qu'on fait dans la télévision pour la Formule 1, eh bien nous avons le même degré d'exigence que tous les teams, c'est-à-dire que tout doit être parfait, tout doit être au top de la technologie, tout doit être le plus précis possible, on ne doit rien louper, c'est notre motto dans notre société, on ne doit rien louper, c'est pour ça qu'il y a à peu près 150 signaux caméra, 150 signaux vidéo qu'on a chaque Grand Prix, et que même si on filme le turn 6, eh bien les caméramans au turn 12, ils doivent quand même filmer toutes les voitures au cas où il y a un accident, au cas où il y a un incident de piste, au cas où il y a comme à Singapour des fois des varans qui traversent la piste, voilà, pour signaler aussi à la FIA qu'il y a un danger au turn 12 ou qu'il y a un problème ou qu'il y a quelqu'un qui a fait comme Fernando ce week-end, Fernando Alonso, il a fait
il a freiné un peu trop, voilà. Abruptement, un peu trop tôt.
Selon lui, il a pas freiné, il a décéléré. Mais enfin bon, Fernando, c'est un vieux renard.
Et si on regarde les datas, il parle d'autre chose. Hein, mais ça, c'est autre chose. Je vais y venir parce que c'est un sujet qui est très important. On arrive au 1er mai. Ça va être les 30 ans du décès de d'Ayrton Senna. Mm-hmm. C'était en 94, donc vous avez commencé en 92. Vous y étiez très certainement. C'est quelque chose qui 30 ans après marque encore. Que ce soit que vous soyez fan de Formule 1 ou pas, mais encore plus dur quand on est fan de Formule 1. Pour vous, ça reste un moment encore fatidique. Ce week-end était maudit presque dès le départ, dès le vendredi.
Alors, il faut que je raconte une petite histoire, c'est qu'en fait, mes cousins et moi, nous, on adorait Alain Prost puisqu'on était français.
Pareil. Hein.
On supportait Alain Prost, évidemment, et que quand Ayrton Senna est arrivé en 84. On a vu ce missile arriver, mais nous, on était vraiment supporters d'Alain Prost. Et puis, quand il y a eu un peu la guerre, ou la grosse guerre entre Alain et Ayrton, évidemment, nous étions franco-français, vive la France, le drapeau et tout ça. Moi, quand j'ai travaillé en Formule 1, j'ai travaillé pour l'équipe McLaren.
D'accord.
Quand Ayrton Senna était là, et c'était en 92. En 92, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Alain ne courait pas,
oui,
puisqu'il a fait une année blanche, on va dire ça comme ça.
Pour pouvoir passer chez Williams après.
En 93. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit, tu vas travailler chez McLaren. Avec McLaren, tu vas ramener les sponsors. J'ai dit, OK. Et en fait, quand je suis arrivé chez McLaren, j'ai vu la personne, en fait, je ne vais pas dire que je n'aimais pas, mais en fait, j'aimais, il y avait le yin et le yang, et moi, j'étais pour le yin, et devant moi, il y avait le yang. Donc, je présentais les VIP, je leur faisais des garage tours et tout ça dans le garage McLaren avec Senna et Berger, et en fait je voyais cette personne et je me disais mais c'est lui donc qui est le méchant garçon qui veut casser la France.
On était un peu endoctriné hein, en étant honnête hein, par les médias français et la bataille franco-française. Moi c'était pareil que vous hein. C'était pour moi il y avait le bien et le mal et il n'était pas là où tout le monde le pensait.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas une question de bien de mal, c'est en fait le sans être péjoratif, c'est la rouge et le bleu quoi. C'est tout, c'est on est avec les rouges et on n'est pas avec les bleus. On n'est pas contre quelqu'un, on est juste avec quelqu'un d'autre. Et donc en fait moi donc je faisais les VIP tours les garage tours pour les VIP chez McLaren. Je travaillais pour un sponsor pour Shell à l'époque et donc voilà quoi, j'étais et moi je voulais voir Alain Prost et en fait je voyais pas Alain Prost et je voyais le l'autre côté. Alors voilà, tout ça c'était très très bien, tout ça c'était très très bien. Il était assez énigmatique, il parlait très calmement, sans bouger trop les bras. Mais je passais très peu de temps dans le garage. Hein. Je passais peut-être une demi-heure. Alors voilà, pour moi c'est en fait ce qui m'a le plus étonné quand j'ai vu Ayrton, c'est qu'en fait il donnait des genre de conférence de presse derrière le garage, comme Alain Prost d'ailleurs. Quand il sortait du garage, il y avait toujours une cour de journalistes français ou pour Alain et ou brésiliens pour Ayrton, et qui et en fait ces deux pilotes influençaient les médias en disant Alain il a fait ci et moi je suis mieux, et en fait Alain il disait moi je suis mieux et Ayrton il a fait ça, et donc en fait c'était ces genres de conférences de presse qui n'étaient pas en fait maîtrisées par les PR en fait de l'équipe. Donc c'était chacun disait c'est la faute de l'autre, un peu comme deux petits gars. garçons.
Ouais, des gamins un peu quand même.
Un peu comme des petits gamins. Alors évidemment, ça aussi, ça a un petit peu changé. C'est, Christophe,
oui,
vous
c'est
savez.
Un petit peu plus régulé.
C'est un petit peu plus régulé. Maintenant, on s'assoit et on se met devant un pilote ou devant un team manager et puis on a le droit à une question. Et puis si ça lui plaît pas, il tourne la tête et il part.
Ouais,
voilà.
Absolument. Il y en a des plus sympas que d'autres, mais on va pas nommer forcément des noms.
No comment.
mais ce week-end, si on revient sur ce week-end du 1er mai, enfin le week-end fatidique du 1er mai 1994, comment vous l'avez vécu ce week-end? Parce que on va en reparler là dans les mois à venir, ça va être le 30e anniversaire. C'est forcément quelque chose dont on va reparler. Il y a eu des documentaires de faits sur. Mais il faut se rappeler que bon, oui, Senna est décédé et c'est dramatique. Ratzenberger est décédé la veille. Il y a eu un accident énorme avec Barrichello l'avant-veille, vendredi, et pendant la course après le décès d'Ayrton Senna, il y a eu un accident avec Michele Alboreto aussi dans les stands. Je crois qu'une roue s'est échappée et partie de. Enfin, c'était vraiment un week-end.
Et sur la grille aussi au départ.
Oui,
hein,
sur la grille.
Il y a aussi un autre crash.
Donc c'était hallucinant ce week-end. Quand on regarde en arrière, on peut être fatidique, on peut croire en ce qu'on veut, mais il s'est quand même passé énormément de choses sur un week-end maudit.
Alors, il faut aussi voir les choses en arrière. C'est qu'à cette époque-là, c'était Max Mosley qui était président. Max Mosley et Bernie Ecclestone qui dirigeaient la F1 et qui était aussi vice-président de la FIA. Et qu'en fait, ces deux personnes-là étaient dans le sport automobile depuis très longtemps. Et eux-mêmes ont perdu des pilotes, des amis dans le sport. Donc, je ne sais pas comment dire, mais en fait, c'est inhérent au métier. Oui. De pilote de course.
Bon, on n'était plus habitué à ça, par contre.
D'avoir des décès. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est pas moi qui l'ai inventé, et pas en français, c'est The show must go on. On doit continuer le show. Jusqu'où? Jusqu'à quelle limite, évidemment? Le vrai souci avec le décès d'Ayrton, c'est qu'en fait, ça a été en direct. Évidemment, tout le monde pense à Jim Clark, Jochen Rindt, mais on n'a pas vraiment les images de Jochen Rindt, de Jim Clark, de François Sever.
Ouais, François Sever aux États-Unis.
Qui finit avec la tête coupée. Ouais. Enfin, tout ça, on nous raconte et puis on essaie d'imaginer. Mais là, en fait, c'est une mort en direct et c'était la mort de la superstar de télévision. En direct.
Et la star qui était égratignée sur ce début de saison, qui avait des problèmes dans sa nouvelle voiture, qui était là et qui partait sur un Grand Prix presque de rédemption. Il était là, ok, la saison commence maintenant. Et en fait, elle s'est terminée totalement.
Avec le petit jeune qui était là, qui était Michael.
Tout à fait, ouais. qui gagne d'ailleurs.
Et puis vraiment, qui évidemment n'était pas heureux puisqu'il savait qu'il y avait un très énorme problème. Et en fait, donc moi, je n'étais pas à Imola ce week-end-là, donc en 1994, 1er mai 94. Mes cousins étaient mes deux cousins avec qui je partage la passion automobile du sport. La passion du sport automobile était sur place. Ils étaient dans le stand Renault. Ils étaient avec tous les gens de chez Renault, et donc ils ont compris, Williams Renault, ils ont compris tout de suite qu'il y avait un très grave problème. Il n'y avait pas de portable à l'époque, donc en fait on ne pouvait pas communiquer. Moi, quand j'ai vu l'accident à la télé, déjà je me suis dit, s'il ne sort pas de la voiture, c'est que c'est évidemment très très grave. C'est-à-dire qu'en fait, donc il doit être paralysé quelque part, puisqu'il ne peut pas sortir avec ses bras ou avec ses jambes. Et puis, il a un léger mouvement de tête.
Il a un léger
mouvement de tête. Et puis après, il y a tous les marshals qui viennent et qui essayent de l'extraire. Et puis après, on voit toutes ces images en hélico qui le filment. On voit ces taches de sang au sol. Bon, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'était fou. C'était vraiment le. Je sais pas, je vais pas faire un blasphème, mais c'était un peu la crucifixion du Christ en direct, quoi, devant nous à la télévision. Le Christ de la Formule 1.
Ouais.
Le Christ de la Formule 1, soyons modestes. Et en fait, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Ça a changé déjà la manière pour nous de filmer un accident. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un accident, on ne filme, évidemment, toutes les caméras, comme je vous expliquais, essaient de tout filmer. Et en fait, tant que le pilote ne parle pas ou n'est pas sorti de la voiture, on ne remontre pas ni le replay, ni un plan large, on filme autre chose. Voilà. Et puis aussi, les équipes médicales, elles mettent aussi des draps devant, ou des screens pour cacher, évidemment. Et bon, je trouve ça absolument normal parce qu'on ne va pas s'apitoyer.
Il y a les familles qui regardent. Si on reprend sur l'exemple de Romain Grosjean, sa femme, ses enfants étaient devant la télévision. Et pendant les quelques minutes du trauma, on peut se poser. On a un milliard d'idées qui passent par la tête. Heureusement, ça s'est bien fini pour Romain.
Heureusement. Et incroyablement, si on regarde les images de Romain Grosjean, je vais vous donner un petit scoop là.
Je vois que la sont incroyables, les images.
Non, mais si on regarde les images de Romain Grosjean, donc il y a un hélico qui filme le départ. Et évidemment, toutes les caméras, il y a une caméra à peu près, il y a 40, entre 35 et 40 caméras autour de la piste. Et évidemment, Romain était, on va dire, le 18e ou 19e. Et si vous vous souvenez, il y a Kimi Raikkonen qui part large sur le côté à gauche. Et en fait, toutes les caméras, elles panotent avec les 3, 4 premiers ou les 10 premiers. Et donc, toutes les caméras ont panoté pour filmer les 10 premiers. Et la seule caméra qui a filmé l'accident de Romain Grosjean, c'est l'hélicoptère. Mmh. Heureusement.
Oui, on la voit du dessus, exactement.
Mais c'est la seule image. C'est la seule image parce que toutes les caméras étaient tournées vers les voitures qui partaient au virage 3 ou 4. Voilà, au virage 4. Et en fait, voilà quoi. Donc, en fait, c'est toutes les caméras sont très importantes. Et tout le monde, quand on travaille, on a tous une responsabilité de se dire que, en fait, on est là, on doit filmer au maximum. Et d'ailleurs, de temps en temps, quand je fais d'autres championnats automobiles et que je fais des courses, que je filme des courses, je suis sur la piste parce que je veux changer des fois. Je veux pas tout le temps être dans les stands, donc je vais sur la piste. Et en fait, sur une course, par exemple, je filme une heure et il y a 60 voitures. Ben, pendant une heure, je panote. On comprend panoter ?
Ouais, ouais, complètement. Ouais.
Je filme toutes les voitures. En pensant qu'il y ait peut-être un problème sur la voiture 1 ou la voiture 4 ou la voiture 12. Et en fait, c'est notre métier. Alors, on n'est pas tout le temps assis au soleil en train de regarder le soleil. Et...
Malgré le fait que vous êtes bien bronzé quand même.
je t'enverrai. Je te dirai où j'ai été.
On sent qu'il y a une vraie passion. C'est une vie pour vous. C'est votre vie, la Formule 1. Vous faites d'autres championnats. Donc, est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir à un moment de la Formule 1? Vous arrivez à un certain âge, à un moment ou à un autre, on va tous prendre notre retraite et tout.
Ça fait plaisir.
Vous y êtes encore loin, mais est-ce que forcément vous y pensez à un moment ou à un autre où on est à fond dedans et à un moment ou à un autre on décidera plus tard? Parce que je dis simplement ça parce que vous avez 33 ans de carrière.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens, au bout de 33 ans de carrière, on pense à la porte de sortie et pas forcément vous.
Alors déjà, mon métier, il est très physique. Hein, Christophe, vous savez, puisque vous m'avez vu filmer, ma caméra, elle pèse à peu près entre 15 et 17 kilos. Je travaille à peu près pendant le Grand Prix, à peu près pendant 2h30. Donc j'ai la caméra sur mon dos. J'ai évidemment des graves problèmes de dos et de cou que j'essaye de soigner, mais d'éviter. Donc
minimiser,
j'essaye de travailler de certaines manières. J'ai eu plusieurs opérations dans le bas du dos, évidemment, avec des hernies discales multiples. Pour moi, en fait, la passion, elle m'emmène tellement, elle me donne, j'ai tellement de satisfaction qu'en fait, j'oublie ça. J'oublie mes problèmes physiques. Et en fait, dans la journée, j'ai pas vraiment de problèmes physiques. C'est plutôt le matin où il faut me sortir du lit avec une grue. Et puis, en fait,
vous êtes un diesel alors.
Une Porsche diesel, on va dire.
Porsche diesel, voilà. Un DCI.
Voilà, une Porsche diesel. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, tant que la passion, elle m'anime et que mon corps peut suivre, ça va. Il m'est arrivé que mon mental ne suive plus. Et donc, quand le mental ne suit plus, ben, le corps n'obéit plus. Il m'est arrivé ça. J'avais besoin d'un break. Bon, voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Il n'y a que le mental qui m'arrêtera.
D'accord.
Voilà. Et puis.
Et aujourd'hui, cette Formule 1, elle est intrinsèquement vraiment différente de ce qu'elle était en 95, 96, 97. Ou est-ce que le corps du produit est le même, les pilotes ont la même rage de vaincre, la même course à la vitesse, et qu'en fait, au final, le corps, ouais, l'essence du sport est toujours la même, même si la technologie est partie sur carrément une autre planète. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la F1 est toujours un sport comme il l'était il y a 30 ans? On parlait beaucoup des gentleman's drivers avant, même bien avant tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé pour les pilotes?
Et gentleman driver, je pense qu'ils sont arrêtés à Mark Webber, David Coulthard, peut-être Jensen.
J'allais le dire, Button, c'était la classe quand même.
Peut-être,
c'était quand même la classe,
voilà,
Button, on peut le dire.
Jensen.
Et je suis très content qu'il ait été champion du monde, parce que ça aurait été un gâchis énorme qu'il n'ait pas eu ça dans sa carrière.
Il n'y a pas vraiment de gentleman driver maintenant. Les jeunes, je vais appeler ça les jeunes ou les pilotes, ils sont drivés par gagner et ils se fichent de savoir qui est à droite, qui est à gauche, ils veulent juste gagner. Et donc en fait, il n'y a pas de gentleman driver. Personne dira, vous avez vu ce week-end, à Melbourne, le week-end dernier à Melbourne, c'est que qui n'aurait pas voulu avoir Piastri sur le podium?
Oui, complètement.
Bon, ben voilà, c'est
un
business.
Il n'est pas sur le podium.
C'est un business, on l'a dit à Piastri, tu ralentis et Lando va passer. Voilà, ça s'appelle un business. Alors, il y a le sport, mais à un moment, les mecs qui croulent, ils font du sport. Et à un moment, il y a un boss qui est là et qui dit, bon, alors, on préfère Lando plutôt que Oscar. Mais
il
on
serait
est...
passé quoi si Piastri avait dit, ouais, d'accord, mais pas ralenti? Il serait fait souffler dans les oreilles?
Ouais, mais bon, il était moins vite. Donc, il serait fait passer quand même. Il était moins vite, il aurait... mais vous vous souvenez du Multi-21?
Oui, le Multi-21, absolument.
Mais Seb, il s'en foutait. Hein. Il est rentré dans le truc, dans le garage. On lui a dit, t'as pas respecté les équipes. L'équipe, il dit, mais je m'en fous, moi. Moi, je fais ce que je veux.
Ouais.
Donc, en fait, Oscar aurait pu faire ça. Et ça aurait été de lui, il aurait pu être un genre de... Il aurait pu être un genre de héros. Mais aujourd'hui, Oscar... Il est gentleman parce qu'il a écouté son équipe et il a laissé passer l'autre, Lando.
Et d'ailleurs, il est plus ou moins managé par Mark Webber quand même.
Il est managé par, il est très managé par Mark Webber. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on manque drastiquement en Formule 1 et ce qu'on manque drastiquement en Formule 1, c'est le bruit qui avait dans les années,
ouais, tout à fait,
90, dans les années 2000, c'était fou. Bon, moi, je travaillais évidemment avec un casque pour me protéger les oreilles. Et je me souviens, à Monza, je me souviens que j'étais à côté de Michael Schumacher avec une moteur V10. Et la voiture démarre. Alors, j'ai gardé mon casque. Et juste la voiture, quand elle est sortie, j'ai filmé la voiture sortir. Et j'ai enlevé mon casque. Et j'ai entendu juste le moteur Ferrari, le V10. Juste... Et puis après, je l'imaginais arriver la chicane. Voilà, c'est ça. C'était fou. Et quand il y en avait 20 ou 22 voitures V10 ou V8 qui démarraient, mais je vous assure que c'était... Ouais. c'était...
Ouais, pour l'avoir vécu, c'était quand même quelque chose d'incroyable.
Voilà. Aujourd'hui, il y a un turbo qui filtre le bruit et qui fait de la régénération d'énergie. Donc, on s'en sert. Hein. Mais pour moi... les gens qui sont assis chez eux et qui voient le sport à la télé, tous les sports, il faut qu'ils se disent c'est un rêve ce qu'on voit et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire nous. Alors on ne peut pas faire de bruit dans la rue quand on roule, mais eux ils peuvent faire du bruit. On ne peut pas marcher dans la rue avec des pointes, mais Usain Bolt il court avec des pointes sous ses chaussures. On ne peut pas lancer un javelot dans la vraie vie, mais par contre eux ils peuvent le faire. Et je pense que c'est ça l'essence du sport. Et c'est ça qui nous manque en Formule 1, c'est-à-dire que c'est le
bruit.
On
y reviendra ou pas? Probablement pas. Parce que les normes pour l'anti-pollution, les pollutions du bruit, c'est quand même plutôt mal parti quand même.
C'est mal parti. C'est mal parti parce que... Voilà, c'est mal parti.
On va s'arrêter là.
Non, et moi je peux continuer à parler avec vous.
Non, mais sur le coup, mal parti. Ah, ouais, j'ai une dernière question. Mm-hmm. On va être franco-français. Mm-hmm. Il y a une écurie alpine qui est plutôt une saison compliquée cette saison. Mm-hmm. Et peut-être une saison compliquée déjà l'année prochaine. Des pilotes français qui sont Gasly et Ocon. Cette filière française, elle a eu vraiment une apogée dans les années 70-80, Jabouille, Arnoux, Prost, bien sûr, Tambay.
Quand il y avait du son.
Quand il y avait du son, voilà.
D'accord, okay.
Il y a eu un énorme creux.
Quand il y avait trois caméras qui filmaient.
Il y a eu un énorme creux, et puis là, il y a encore des pilotes qui sont là sur le pavé. Il y a Gasly, il y a Ocon, il y a eu Romain Grosjean il y a très récemment. Bon, Leclerc, il est monégasque, on va le prendre comme ça.
Il est 100% monégasque.
Non, il est 100% monégasque, mais bon, on va le prendre chez nous, il peut. Cette filière française, elle est là, elle existe, on peut être positif par rapport à ce qu'il y a derrière.
Alors, il faut l'encourager, là, évidemment. Il faut d'abord, le sport de haut niveau fait fi, en fait, des nationalités. Si vous êtes bon et que vous êtes thaïlandais, si vous êtes bon et que vous êtes français, si vous êtes bon et que vous êtes rwanda, mais vous courez quand même. Ou vous êtes un technicien, vous le faites. Il n'y a ni couleur, ni religion, ni nationalité. Si vous êtes bon, vous êtes pris et vous faites votre travail. Voilà. Dans le cas d'Alpine, ils ont fait un genre de... Comment je pourrais dire qui est très française, évidemment. Ils ont pris les deux pilotes français, Pierre et Esteban, qui sont des super
ouais,
pilotes.
Oui, tout à fait.
Des super mecs.
Avec une histoire, juste pour en aparté, incroyable, parce qu'ils sont nés à 50 km l'un de l'autre. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la même écurie en Formule 1. Et c'est la Normandie...
Mais ils couraient ensemble en karting ils avaient 3-4 ans.
Mais dans le club local.
Voilà. Et là, ils ont 27 ans. Et 20 ans après, ils roulent ensemble.
C'est pas les meilleurs amis du monde, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'ils se connaissent aussi.
Ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est un peu des frères. Quels sont les deux frères qui se sont pas embrouillés?
Exactement.
Voilà, maintenant, bon, ils s'entendent bien. Moi, je parle souvent avec. Je parle plus avec Pierre qu'avec Esteban. Quoique, je connais très bien Esteban et sa famille, et Pierre aussi. Mais Pierre, il est là pour rouler. Et puis, comme je vous ai dit au début, Pierre ou Esteban, ils s'en fichent de savoir qui est à côté. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. Première chose, c'est de battre son coéquipier avec le même matériel. Et deuxième chose, il peut être français, il peut être thaïlandais, il peut être américain ou il peut être brésilien. Lui, ce qu'il veut, le pilote, il veut gagner. Alors, l'histoire de la filière française, évidemment, on a besoin d'avoir une équipe française. Évidemment, on a besoin d'avoir des pilotes français. La relève, là, alors on a... On a un petit gars qui s'appelle Isaac Adjar.
Ouais, qui a gagné d'ailleurs première course, première victoire ici,
voilà,
à Melbourne.
Qui est fantastique, qui a gagné en F2. Il a gagné le samedi, la sprint race. Il a gagné la feature race aussi le dimanche. Et franchement, voilà, il est sponsorisé. Il est dans la filière Red Bull, pouponné par Helmut Marko. On a un grand espoir. Pour qu'il aille en Formule 1. Et ça, c'est la relève française. Alors, il y en a plein d'autres, la relève française, qui sont un peu moins... Il y a Victor Martens aussi, qui est super. Lui, il fait partie de la filière alpine.
D'accord.
Aussi. Mmh. Voilà. Donc, on a un petit gars qui fait partie de la filière alpine, un petit français qui fait aussi partie de la filière Red Bull. Donc, je pense que d'ici un an, deux ans, on espère avoir de la relève française, soit Isaac, et j'espère Isaac, soit Victor, et j'espère aussi Victor. Voilà, c'est ces jeunes-là qui rêvent évidemment de faire la Formule 1. Moi, je parle souvent à Isaac, je parle souvent aussi à Victor. C'est des jeunes qui rêvent et qui veulent conduire une voiture plus grande, plus rapide et qui veulent être au championnat.
Ils veulent batailler.
Ils veulent gagner. Ils veulent pas forcément gagner des milliards. Évidemment, tout le monde veut gagner des milliards. Mais ce qu'ils veulent, c'est gagner des courses de Formule 1.
L'Australie, juste pour finir vraiment, l'Australie, c'est un grand prix important dans le calendrier. Il est apprécié par les pilotes, ce circuit. On aime venir, même si c'est très loin quand même. On va pas beaucoup plus loin que l'Australie. Est-ce que c'est un circuit, un Grand Prix qui est apprécié par les pilotes, par le staff, par la Formule 1, est-ce que c'est important dans le calendrier?
L'Australie, c'est fantastique.
Et ben voilà.
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est évidemment, c'est fou quand on vient ici. D'abord, évidemment, c'est évidemment 20 heures ou 24 heures de voyage. C'est très, très long, mais la récompense, elle est énorme. Le paddock est magnifique.
Il est extraordinaire, le paddock.
Voilà, le paddock, il est beau,
il est approchable, il est convivial.
Voilà, il y a des arbres, il y a du soleil, il y a de l'herbe, il y a des tables dehors, on peut s'asseoir, personne ne nous casse les pieds. On peut en parler. Toi, vous et moi, on s'est assis, on parle, on discute. Personne va voilà. Donc, quand on va par exemple à Bahreïn, qui est un très bon Grand Prix, hein, eh bien, tout le monde, enfin toutes les équipes, elles sont enfermées avec la chaleur dans leur motorhome. On voit pratiquement personne. Maintenant, l'année prochaine, le premier Grand Prix de la saison retournera en Australie. Donc, nous sommes très heureux de venir en Australie. Pour nous, en fait, l'Australie, puisque je l'ai fait au moins 25 fois, enfin, au moins 20 fois, c'est qu'en fait, on va de l'autre côté du monde, on va au soleil, on va faire ce premier Grand Prix. Et puis...
C'est important qu'il soit le premier Grand Prix, un Grand Prix australien. Pour moi, c'était une erreur qu'il ne le soit pas. Bon, en tant qu'Australien, hein, mais c'est sûr. Mais le fait que l'Australie revienne premier sur le calendrier, pour moi, sportivement, c'est important.
Sportivement, j'aime bien le mot sportif, évidemment. Évidemment, sportivement, c'est très important.
Il
y a d'autres critères qui ont fait qu'il n'était pas le premier Grand Prix. Mais là, il revient le premier Grand Prix et tout le monde est heureux de venir ici. En fait, ce qu'il faut, c'est que le Grand Prix d'Australie ne soit pas en single race. Il faut qu'il soit couplé à une course la semaine d'après, comme par exemple le Japon ou comme par exemple ce qu'on faisait avant, c'était la Malaisie ou la Chine éventuellement.
Oui, pour les frais simplement.
Pour les frais, ouais. Et puis pour nous, pour pas à chaque fois, parce que là, on va en Australie, on se prend 12 heures de décalage horaire, on rentre en Europe, puis après on se reprend 9 heures de décalage horaire pour aller au Japon. Je veux dire, physiquement, c'est très très difficile. En fait, les blessures physiques et mentales, on les a à peu près vers le mois d'octobre, quand on enchaîne Singapour-Japon. Quand on enchaîne Singapour, Japon, États-Unis, Mexico. Donc là, en fait, on reste 15 jours en Asie. Donc notre corps est habitué. Et puis après, on doit aller de l'autre côté où on se prend 9 heures en moins. Et là, en fait, au Grand Prix d'Austin et au Grand Prix de Mexico, il y a 20% des gens qui sont blessés parce que physiquement, au niveau du jet lag, au niveau, c'est fou, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et voilà. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est, d'ailleurs, j'ai dit ça au chairman du Grand Prix, on voudrait bien faire 24 Grand Prix en Australie. Il m'a regardé, il a rigolé, il a dit bon.
On va commencer par un, déjà. On va maintenir le Grand Prix d'Australie, ce sera déjà bien. C'était un plaisir de vous parler, Jean-Michel. Vous avez un livre, vous nous rappelez votre livre qui est disponible à la FNAC. D'ailleurs, il est pas disponible ici, mais on peut l'acheter à la FNAC. Et si jamais vous avez quelqu'un qui va en France, en tout cas, moi, je sais ce que je vais acheter quand j'y vais au mois de juillet. C'est votre
Alors, mon livre donc s'appelle Jean-Michel Tibi, c'est mes 30 ans de secret de Formule 1. On peut l'acheter sur Amazon.fr ou .Canada ou .Belgique ou .Suisse ou ..
Les Amazons francophones.
Oui, je pense que même à Nouméa, on peut l'acheter.
D'accord.
Parce que
okay.
Voilà, on peut aussi le trouver à la FNAC. Bon, dépêchez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent à la FNAC. Donc, je pense que sur Amazon. Votre pays
francophone,
francophone, vous pouvez l'acheter. Voilà. Mon Instagram, c'est @F1JMT. Donc, mes initiales, Jean-Michel Tibi. Mais j'ai un Instagram Jean-Michel Tibi, mais ce n'est pas ça. C'est mon Instagram professionnel, c'est @F1JMT.
Avec des photos incroyables.
Avec des photos.
Incroyable, voilà, pour le rajouter.
Avec des photos que voilà, je prends plaisir à faire et j'en ai fait encore aujourd'hui et que je mettrai sur mon Instagram. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'en fait, les gens, ils regardent de plus en plus les sports, en règle générale, qui se relaxent et qui se passionnent pour quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je fais mon métier. Le matin, je me lève, je me dis, voilà, ce qu'il faut, c'est que les gens... Moi, ce soir, je sois heureux. Et si moi, je suis heureux dans mes images, les gens seront heureux de partager ça. Une de mes plus fameuses images que j'ai fait, c'était il y a deux ans, quand Toto Wolff casse son casque à Jeddah suite à l'accrochage de Max et de...
Et la fameuse safety car. Qui a le droit de passer et pas passer la safety car?
Alors non, ça c'était à Bahreïn.
D'accord. Okay.
C'était à Abu Dhabi.
D'accord.
Moi, j'ai fait l'image le week-end d'avant.
D'accord.
Le week-end d'avant, le samedi, il y avait la qualification en 2021 et que Max tape le dernier virage en qualification. Alors, en fait, je filmais son père. Et en fait, Max tape dans le virage et tape à la roue arrière droite. Et je vois Jos Verstappen qui tape de rage sur la table. Donc là, le samedi, c'était bien. J'ai eu Jos Verstappen très mécontent. Et le dimanche, il y a un accrochage entre Max et Lewis. Et moi, je suis dans le garage de Mercedes. Et j'ai la rage incroyable de Toto qui casse son casque. Et donc, voilà, j'étais très content. Le samedi, j'avais le clan Verstappen. Le dimanche, j'avais le clan Hamilton.
La parité.
Voilà, j'étais très bien, tout ça en slow motion et j'étais vraiment bien.
Super, merci Jean-Michel.
Avec plaisir Christophe, salut, à bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.